Lizzie présente Les émotions cachées des plantes de Didier Van Kovelaert, lu par l'auteur. J'ai perdu mon temps. La seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Sigmund Freud. Chapitre 1. Préparer le terrain. Je suis né dans une serre. Ma mère étant horticultrice et mon père avocat, la cause des plantes fut mon premier fer de lance, ma première stratégie. C'est au milieu des hortensias, des azalées, des chrysanthèmes, des orchidées, dans les parfums lourds de terre humide et de fleurs surchauffées où je conviais mes copines d'école, que je connus, à partir de 9 ans, les émotions, les tâtonnements et les chagrins précoces qui m'ont servi d'engrais. Sur le plan de la sensualité, de l'imagination et de la psychologie, je suis le produit du règne végétal. En toute honnêteté, mon capital de séduction et mon prestige un peu louche auprès des filles devaient beaucoup à Télé Monte-Carlo. Le grand botaniste Jean-Marie Pelt y animait à l'époque une émission d'un érotisme aussi jubilatoire que didactique, La vie amoureuse des plantes. Attirant mes petites camarades dans les serres le jeudi après-midi pour jouer au docteur en botanique, je les mettais dans des dispositions propices au déshabillage mutuel en leur expliquant, preuve à l'appui, la manière dont les orchidées draguent les guêpes mâles en imitant l'apparence de leurs femelles, ou les trésors de perversité que déploie la passiflore dans sa relation avec les papillons, ou encore l'ingéniosité avec laquelle les plantes carnivores épargnent certaines de leurs proies pour qu'elles les aident à se reproduire. À partir de ces réalités, je bouturais sans fin dans mon imaginaire, appliquant aux créatures végétales le traitement qu'Hitchcock avait infligé aux oiseaux. J'apprendrai toutefois, à l'âge adulte, que certains des comportements les plus hallucinants que je croyais avoir inventés existaient bel et bien dans la nature. Cela dit, l'intelligence chlorophyllienne au service de ma libido naissante me valait moins de laurier que de râteau. J'étais surtout devenu, au fil de mes consultations du jeudi, un raconteur d'histoires, tenant en haleine mes éventuelles conquêtes au récit des copulations savantes et pernicieuses élaborées par le monde végétal, avant de passer aux travaux pratiques dans la touffeur des serres pour leur montrer à quel point la nature était bien faite. Illustrant à ma manière l'adage « dites-le avec des fleurs », je parlais d'amour par le truchement des plantes, exprimant mes émotions à travers celles qu'elles paraissaient manifester dans leur besoin de séduire, de créer des illusions et de nouer des liens. Et puis, un jour de Toussaint, mes roublardises et colosensuelles ont déclenché une tempête au cœur de la roseraie. La plus jolie fille de mon CM1, une Asiatique à la douceur mystérieuse et mutique, sous la jupe de laquelle j'avais aventuré une main éducative, m'envoya sur les roses avec une violence disproportionnée. Déséquilibrée par son coup de poing, renversée au milieu des tiges cassées, je l'entendis m'assimiler au Khmer rouge qui avait violé sa mère et massacré ses grands-parents. Aussi confus qu'admiratif, je l'avais prise sur l'instant pour une affabulatrice encore plus douée que moi. Mais j'appris de la bouche de mon instituteur, par la suite, que je n'avais fait que réveiller une vérité insoutenable. Le repentir que j'en éprouvais alors, ce remords de satyre en herbe, cette culpabilité de Khmer vert, ont non seulement modifié mon regard initial sur les filles, mais aussi bouleversé durant plusieurs mois mon rapport avec les plantes. J'avais l'impression qu'elles m'en voulaient, qu'elles me rejetaient, qu'elles avaient honte de moi. Je n'arrivais plus à entrer dans une serre, à affronter le reproche vivant que les végétaux paraissaient m'adresser. Je fantasmais, bien sûr, mais pas seulement. Lorsque, 30 ans plus tard, je devins ami avec mon initiateur végétal de Télé Monte-Carlo, Jean-Marie Pelt m'apprit qu'une jurisprudence américaine avait établi que les plantes n'oublient jamais un agresseur. l'état d'alerte qu'elles éprouvent ensuite à son approche est mesurable par des oscillographes. Ainsi, la réaction électromagnétique enregistrée sur des hortensias avait-elle permis de confondre un assassin dans l'État du Wisconsin ? Le crime ayant été commis à l'intérieur d'une serre, en l'absence de tout témoin, mais au terme d'une bagarre ayant endommagé les hortensias, un expert suggéra de faire comparaître différents suspects devant les victimes collatérales. L'émotion manifestée par les plantes à l'entrée de leur agresseur déclencha un pic sur l'écran de l'oscillographe auquel elles étaient reliées par des électrodes. Et leur témoignage fut déclaré recevable devant le tribunal suite aux aveux spontanés que cette émotion végétale avait provoqués chez le meurtrier. Émotion. Le terme est-il approprié? Les dictionnaires en donnent une définition double. État de conscience complexe, accompagné de bouleversements psychologiques, mais aussi mouvement, agitation d'un corps collectif pouvant dégénérer en trouble. Aussi incroyable que cela paraisse, les plantes sont capables d'éprouver et de mettre en pratique, nous le verrons, toute la gamme des émotions ainsi définies. La peur, l'humiliation, la gratitude, l'imagination créatrice, la ruse, la séduction, la jalousie, le principe de précaution, la compassion, la solidarité, le sens de l'anticipation. Et comme on l'a récemment démontré, elles savent aussi, par les moyens les plus extraordinaires comme les plus simples, transmettre ce qu'elles ressentent. Pourquoi en être étonné? Si nous nous targuons de descendre du singe, nous oublions trop souvent que nous remontons aux plantes, à cette algue originelle qui un jour s'est transformée en animal, tel que nous le racontent les fossiles témoins de l'évolution sur Terre. En route, donc, pour cette fabuleuse aventure de la conscience, qui nous mènera de nos racines végétales jusqu'à cette part d'humanité dont les plantes semblent nous fournir tant de preuves éloquentes, comme si elles nous tendaient à un miroir, comme si elles nous offraient un aide-mémoire permettant de nous reconnecter à notre nature profonde. Chapitre 2. L'imagination végétale. Il y a 4 milliards d'années, la vie est née dans le potage. C'est ainsi que le grand biologiste anglais J.B.S. Haldane qualifiait les océans d'alors, soupe de molécules très chaudes où apparurent les bactéries, telles ces petites pattes en forme de lettres qui allaient écrire l'histoire de l'évolution. Chapitre 1. Ouvrant le grand chantier de la vie, ces bactéries se mettent à former, par diverses combinaisons moléculaires, les premiers êtres complexes des plantes. Le sucre et la fermentation sont les secrets de cette évolution initiale, dégageant une grande quantité de gaz carbonique. Grâce à la chlorophylle, cette molécule verte qui prend alors le pouvoir en concentrant l'énergie solaire, la réaction chimique entre l'eau et le gaz carbonique assure la production de sucre, tout en produisant un déchet qui se révélera le point de départ de l'aventure biologique, l'oxygène. Sa colonisation progressive de l'atmosphère finira par changer la couleur du ciel, jusque-là d'un gris brumeux. Et oui, c'est grâce aux plantes vertes que le ciel est devenu bleu. La photosynthèse, synthèse des sucres grâce à la chlorophylle et à la lumière, est donc née avec le premier être végétal. On sait à quoi il ressemble. On l'a trouvé dans des fossiles calcaires de Rhodésie. Il a entre 3 et 4 milliards d'années, et c'est une algue. Passons au chapitre 2. Que va faire la vie, maintenant que l'atmosphère primitive a disparu et qu'il faut bien s'habituer à cet oxygène, véritable poison pour les premiers micro-organismes, des bactéries anaérobies qui se développent normalement dans un milieu dépourvu d'oxygène? Eh bien, l'évolution va récupérer ce gaz toxique pour en faire une source d'énergie. C'est ainsi qu'un nombre croissant d'êtres vivants décide de remplacer la photosynthèse par la respiration.